Cinquième et dernier moment de rencontre à l'occasion de ce festival Son de Plateau, rencontre avec Brigitte et Gaston Sylvestre. Brigitte et Gaston, vous adoptez volontiers la position du transmissionnaire, puisque vous avez très souvent partagé votre art avec de jeunes générations d'artistes et de musiciens. Quel regard portez-vous sur l'enseignement de la musique à l'école, c'est-à-dire non pas dans les écoles de musique, mais à l'école publique?
Triste.
Ce sont les classes de flûte à bec.
Oui, et pourtant la flûte à bec, ça peut être merveilleux.
Moi, je dirais que...
Bon, il faut aimer le contexte dans lequel est employée la flûte à bec. Il faut avoir une affinité avec cette musique-là. Mais je trouve un peu dommage. Et quand on voit le parcours des enseignants qui doivent enseigner la musique en milieu scolaire, c'est très très difficile d'arriver à avoir ce diplôme. Faut pas croire que ça vient comme ça. C'est des années d'études et c'est difficile à avoir comme diplôme. Mais au bout du compte, c'est un petit peu déprimant. Enfin, à mon avis, c'est un peu déprimant parce qu'il n'en ressort pas grand-chose. En tout cas, de ce qu'on a connu. Peut-être est-ce que maintenant, avec les jeunes générations, ça a changé. Ça, il faut un peu modérer sa pensée parce qu'on n'est pas... Tant que j'avais des enfants à l'école, j'étais au courant. Maintenant que ça n'est plus le cas, je pourrais l'être éventuellement au travers de mes petits-enfants, mais ça ne s'est pas encore trouvé. Mais je sais que pour nos enfants, c'était un peu triste, quoi. On sentait... Et surtout, ces professeurs ne sont pas respectés. Je crois même que les établissements eux-mêmes les considèrent un peu comme partie...
Quantité négligeable.
Quantité négligeable.
Mais moi, voilà. Je dirais aussi que ces études sont très longues et très complexes, et qu'elle formate les gens d'une manière honteuse. Quand on s'adresse à un enfant, il faut s'adresser avec toute l'intelligence de cet enfant. Si on commence à lui pratiquer un langage de bébé, il restera bébé. Je faisais référence tout à l'heure à l'art graphique, et où on avait des enfants, ils avaient 10 ans donc en milieu scolaire, qui arrivaient avec un quatuor, avec une idée ultra précise de ce qu'ils voulaient obtenir. Ce sont des enfants qui étaient scolarisés, mais ils travaillaient la musique évidemment sur un autre paramètre. Ces gens-là, quand on parle musique, on parle le langage des bébés. Alors je ferai référence par exemple à la méthode Orff. J'ai eu la honte de ma vie de participer aux enregistrements de la méthode Orff. Pourquoi la honte de ma vie? Parce que je me suis rendu compte qu'on nous faisait enregistrer des sons très beaux. Et puis, quand ce son-là était assimilé, on faisait écouter l'octave. Puis on faisait écouter la quinte. Puis on faisait écouter la tierce quand on était assez évolué. Ça veut dire qu'on mettait les enfants dans des prisons absolument abominables. Et quand on proposait, et quand Orff propose ses instruments aux enfants... Quelle que soit la manière dont vous frappez ces instruments, ça sonne toujours bien. L'enfant, il a besoin d'avoir aussi de la laideur, de s'exprimer à travers un instrument. Si chaque fois qu'il tape sur cet instrument, ça sonne de la même manière, il s'en désintéresse totalement et il a raison. Donc, ça paralyse totalement son instinct créatif qu'il a naturellement. Et qu'est-ce qu'on fait avec ça ? On formate les gens pour écouter la musique classique. Et la musique à l'école, on s'adresse à ces enfants comme à des bébés. On fait des... Vous savez, je vais vous montrer quelque chose. C'est pas radiophonique, mais tant pis. C'est pas radiophonique du tout. Mais vous prenez des dessins d'enfants, des coloriages. Et on se trouve devant des coloriages où on colorie des choses qui s'adressent qu'à des enfants. André Masson a fait des coloriages pour ses petits-enfants. ça vient de sortir, c'est à Marseille, en exposition. Il a pris des dessins lui-même et il a donné ses enfants à colorier ces choses-là. Ce sont que des choses d'une fantaisie folle, d'une imagination débordante. C'est un artiste, André Masson, qui a pris son temps de se dire « Je vais faire des dessins pour des enfants ». À Marseille, je ne sais pas si vous êtes au courant, à la, pas l'église des Accoules, mais au cloître des Accoules, a eu une exposition qui dure depuis le début de l'année jusqu'à la fin de l'année scolaire. Il y a peut-être 4000 enfants qui vont défiler là-dedans. Ils sont confrontés à ces dessins. Ils repartent avec un mini format de dessin colorié. J'ai offert ça à mes enfants, à mes petits-enfants. Ils sont fous de ça. D'un seul coup, ils sont pris d'un instant créatif pour faire ça. Alors si un jour on peut me proposer une activité musicale qui corresponde à ça, alors je dirais, vous avez fait votre travail. Moi, j'ai fait un spectacle, un seul dans ma vie, désigné pour des enfants. C'était avec Guy Rebel. Et il m'a dit, je vais mettre en musique les contes de Gris-Paris. Bien, on a choisi 3 contes. Pour ça, j'ai travaillé 3 mois avec un metteur en scène, avec un décorateur, avec un éclairagiste, avec un peintre qui a dessiné les décors. On a travaillé 3 mois et j'ai dit, ça ne s'adresse qu'entre 7 et 10 ans. Ça a coûté une fortune, mais je voulais, si je fais un spectacle pour les enfants, qu'il soit le plus professionnel possible, parce que je ne peux pas m'adresser à un enfant si je ne m'adresse pas à lui avec les meilleures qualités professionnelles, avec les meilleures garanties intellectuelles, sans parler son langage. Parce qu'à ce moment-là, l'enfant adopte cette intelligence-là. Ça veut dire, il sent que je le respecte sur son intelligence et non pas sur son langage de bébé. Quand on travaille la musique à l'école, c'est un langage de bébé, c'est un désastre. On ferait mieux de faire un peu plus de sport que de faire de la musique dans de telles conditions à l'école.
Et pourtant, à l'école, aujourd'hui, on a tendance à recentrer l'enseignement sur ce que le ministère appelle les fondamentaux du savoir, lire, écrire et compter. Et on a le sentiment que de plus en plus, l'enseignement artistique devient marginal. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est pourtant un élément important du développement de l'enfant et ça a tout à fait sa place à l'école.
C'est tout à fait important. C'est tout à fait important. Le problème, c'est que l'enseignement général en France, par opposition par exemple à ce qui se passe en Allemagne, aux Pays-Bas, en Angleterre, en France, les enfants sont toute la journée à l'école. Dans les autres pays que j'ai cités, ils ont école jusque vers 1h de l'après-midi. Donc, ils restent quand même toute la fin de la journée pour avoir accès dans une école de musique ou dans une école associative ou bien au conservatoire ou bien un sport quelconque. Ils ont la possibilité de pouvoir faire autre chose que l'enseignement général. Alors que ce soit pas fait à l'intérieur de nos écoles, c'est peut-être triste, mais est-ce qu'il faut pas revoir à ce moment-là le fonctionnement de l'enseignement général dans notre pays?
Les fondamentaux doivent passer par l'artistique, parce que c'est ce qui développe l'intelligence, ce qui développe l'imagination, la sensibilité, ça développe tout. Donc ça doit passer par ces fondamentaux. On règle des choses sans comprendre le fonctionnement de ça. Alors on cite par exemple les conservatoires nationaux de région. Ces conservatoires nationaux de région acceptent des individus qui vont faire un mi-temps pédagogique. Je ne mettrai pas en avant, bien sûr, la guerre que se font les professeurs de musique par rapport aux professeurs de lycée, qui chacun tire la couverture à soi. Mais au bout du compte, qu'est-ce qui se passe? On essaie de cultiver l'enfant à l'extrême, en disant qu'il va pratiquer l'instrument, puisque c'est quand même le but. Eh bien, on va lui donner un tel emploi du temps qu'il n'aura jamais le temps de travailler son instrument.
Alors,
j'ai fait une expérience avec ma fille aînée. Elle faisait du piano, ça marchait bien, ça avançait très fort en piano, en cours privé, bien sûr. Et c'était pas avec n'importe qui, bien sûr. Et puis, on l'a inscrit en Conservatoire National de Région, à Paris. Donc, on peut imaginer que c'est quand même une espèce de top niveau. En 6 mois, ils ont dégoûté mon enfant de faire de la musique. En 6 mois, j'ai pris ma fille, nous avons pris notre fille, on l'a foutue en cours privé, en continuant la musique avec des professeurs privés.
En plein milieu d'année.
C'est un constat d'échec total. Constat d'échec total, qu'est-ce qui se passe? Alors on leur fait faire le solfège, on fait faire la chorale, on leur fait faire l'harmonie, on fait faire... Et puis pour l'instrument, quand? encore moins que si j'étais pas à l'école dans ces conservatoires nationaux de région. C'est, on veut bien faire, et pour faire bien, on fait trop bien, et on tue complètement l'idée qu'on a dans l'idée de se dire, ces gens-là ne vont aller qu'à l'école pour avoir les fondamentaux, et les fondamentaux artistiques à égalité. Le constat, c'est l'échec.
Parce qu'il y a trop.
On veut trop bien faire de partout.
En plus, l'enfant n'a plus le temps du rêve, parce qu'il est assassiné de travail. Donc, c'est déjà, à cet âge-là, c'est métro, boulot, dodo, quoi.
Ce qu'il faudrait, c'est peut-être... je veux dire, je ne sais pas si cela vous paraîtra pertinent, peut-être au point où nous sommes soufflés, prendre du recul, venir voir, c'est important, savoir lâcher prise, de ne pas chercher à forcer les choses, c'est... Bien entendu, ce peut que je veux dire, je ne sais pas si, comme je le sais, je crois savoir que... Vous souhaiterez donc y aller, en mettre un grand coup, de savoir prendre prise, de chercher à forcer les choses, voilà, c'est... Bien entendu, il se peut que je veux dire, je ne sais pas. Je sais, je crois savoir, parmi vous, et pour souffler un peu, plus clair, je sais qu'il y a là un choix à faire, une option à prendre. Nous sommes au mardi 22, nous piétinons, jeudi prochain, et férié, nombreux sont... qui ne voudront pas faire le pont, nous bientôt rendus au 28, au lundi 28, avec tout ce que cela suppose de désorganisation. La question devient celle-ci, est-il raisonnable, envisageable de décider précisément aujourd'hui, veille de ce pont d'en mettre un coup, remarque que le calendrier nous invite à lâcher, à nous prendre le large, ce qu'il faudrait, c'est donc peut-être, je vais me... J'espère vous paraîtra point où nous en sommes, souffler un peu, nous laisser porter pour le hasard du cas, laisser venir, mettre en roue libre, décompresser. Voilà, c'est bien entendu, il est clair qu'alors le 28, lundi 28 devrait dire de forcer le destin d'y aller, sachant qu'alors pourrait s'ouvrir une pleine semaine de travail acharné, il me semble que nous mettre d'accord sur cette double proposition, commence. C'est venir, et puis on y va à fond. Bien entendu, une proposition doit être discutée. Je propose 5 à 10 minutes de pause et on en parle.
Parlons maintenant, si vous voulez bien, de l'enseignement de la musique pour les futurs musiciens. Mm-hmm. La formation dans les conservatoires et dans les écoles de musique. Ce que vous en pensez?
Nous avons été tous les deux professeurs dans un CNR, moi celui de Paris et Gaston celui de Rueil-Malmaison. Donc pendant quand même une trentaine d'années en ce qui me concerne, Gaston un petit peu plus. Je dirais qu'il n'y a pas de règles, parce que chaque élève est une identité, qu'il faut trouver un langage que comprenne cette personne-là. Parce que le langage que vous allez dire à un ne va probablement pas évoquer la même chose pour un autre. Donc, on doit avoir, nous, l'imagination de pouvoir se faire comprendre. Alors, ça peut passer tout simplement par le son, c'est-à-dire que s'il obtient tel son à un moment donné, on peut, nous, faire ce même son, mais avec une meilleure qualité, et l'enfant saura très bien lequel est le meilleur. Donc, à ce moment-là, on peut évoluer dans le sens de l'apprentissage. D'un autre côté, je pense qu'un enfant, il a besoin de découvrir un instrument. Le découvrir, c'est-à-dire le tripoter dans tous les sens, essayer de sortir des sons à droite, à gauche, pour pouvoir s'approprier cet instrument dans la classe où on l'a inscrit. Maintenant, ce qu'on enseigne, comme on l'a dit précédemment, on veut trop bien faire, c'est-à-dire qu'il y a trop de cours parallèles qui ont leur importance, certes, mais où, arriver au fur et à mesure de l'avancement dans les études, il y a de plus en plus, je dirais, du V qui s'ajoutent. Et les journées n'ont quand même que 24 heures. Donc, il y a école jusque vers 2 heures de l'après-midi. Après ça, il y a les cours de solfège, d'harmonisation, les classes d'orchestre, etc., le cours d'instrument. Et on arrive, il est 6 ou 7 heures du soir. Alors, quand est-ce que l'étudiant ou l'élève aura eu le temps de pratiquer son instrument?
Est-ce que cet enseignement dans les conservatoires, il est égal dans toutes les régions de France? Ou bien est-ce qu'il y a des conservatoires de prestige et d'autres de province?
Alors, il y a des conservatoires de prestige qui sont liés à la qualité du diplôme. C'est cette seul degré de mesure que l'on pourrait dire. Le reste, c'est une histoire d'individus. Les individus ne sont pas formatés tous de la même manière pour enseigner une chose d'une égale qualité. Moi, ce qui me terrifie maintenant, c'est que il y a des diplômes de formation pour former ces professeurs dans les conservatoires. Et je constate quoi ? Je constate que c'est le but professionnel que l'individu se fixe. À savoir qu'ils vont sortir de ces écoles à 24, 23, 22 ans, guère plus maintenant, et ils se trouvent bombardés professeurs. Qu'est-ce que ça veut dire? Quelles que soient les études qu'ils aient fait avant, ils vont reproduire le modèle qu'ils ont reçu. Je pense que c'est la condition la plus néfaste pour être pédagogue. Être pédagogue, c'est un partage, c'est apporter ce qu'on a de plus précieux pour le partager avec un autre. Si je reproduis le modèle, je vais fatalement le reproduire en appauvrissant le modèle parce que c'est seulement ce que j'ai compris de ce modèle que je vais transmettre. Si je fais ça à 3 ou 4 générations d'écart, je ne reproduis plus rien du tout. Ça veut dire que je suis un automate qui va reproduire quelque chose pour essayer de dire « tu vas peut-être un jour faire mieux que moi ». La formation de l'individu maintenant, elle est peut-être de qualité. Mais donner l'espoir que ces gens-là, sortis de l'école, sont capables d'enseigner, mais enseigner quoi?
Il faut avoir un vécu.
On est quand même, disons, un truc entre guillemets, des artistes. Ça veut dire des gens qui possèdent un langage. Si je n'ai pas pratiqué ce langage avant,
voilà.
Qu'est-ce que je peux pratiquer?
Il faut avoir joué.
Je suis technicien, je suis quoi? Je suis mécanicien, je suis quoi? Pourquoi moi j'ai fait l'enseignement? Parce que j'avais un besoin profond, au fur et à mesure que s'étageait la création, de me dire si je ne communique pas cette création, où je vais? Je suis obligé de communiquer cette création pour savoir où j'en suis et où je vais. C'était pas une chose de générosité, c'était une chose pour moi vitale. Il fallait que chaque fois que je faisais quelque chose, il fallait que je le transmette à mes étudiants pour savoir si ce que j'avais ressenti à travers mon expérience était positive ou négative. Il y a des choses que je disais, putain, il ne faut plus que je fasse ça, donc il faut que j'arrête de transmettre ça. Et puis il y a des choses où je me dis, ah, j'avais pas encore tout compris. Mais c'est en le transmettant que je comprenais ça. C'est-à-dire que, au fur et à mesure que je donnais ce qu'on m'avait donné, je m'enrichissais moi-même. C'est donc, la pédagogie, c'est avant tout s'enrichir à travers l'autre. C'est donner la capacité à l'autre de jouer encore mieux que ce que j'ai pu faire avant. Ça veut dire que si j'avais mis 2 mois à travailler une partition, parce que je connaissais cette partition et pour que je pouvais décrypter le langage et balayer plus vite toutes les erreurs que j'avais fait avant, qu'il pouvait monter ça en 1 mois et voire en 3 semaines. Et j'étais fou de joie de ce résultat-là, parce qu'ils étaient meilleurs que moi à ce moment-là, au moment où moi j'ai abordé cette chose. Si je suis simplement en train de répéter ce que mon professeur m'a dit, mais pourquoi j'ouvre ma gueule? De quel droit j'ouvre ma gueule pour interpréter ce qu'un autre m'a dit? Or, qu'est-ce qui se passe dans le conservatoire maintenant et dans les différences de niveau dont tu évoquais tout à l'heure le sujet? Mais c'est qu'il y a des gens qui n'ont aucun vécu instrumental et qui sont bombardés professeurs. S'ils n'ont aucun vécu instrumental, comment ils peuvent se prétendre professeurs? C'est pas avec un diplôme qu'on est professeur. C'est pas parce que j'ai une UV que je suis professeur. C'est parce que j'ai un savoir que je dois transmettre. Un professeur de mathématiques, il a toutes les mathématiques derrière lui. Il peut se permettre de transmettre les mathématiques. peut-être qu'un certain nombre d'individus vont traduire d'une manière plus synthétisée les mathématiques qui seront plus abordables par tout le monde parce qu'il aura fait un chemin beaucoup plus profond, mais ça va s'appuyer sur quelque chose qui est reçu. Professeur
d'un instrument, c'est tangible, c'est tangible.
Qu'est-ce qu'il va faire face à une partition, il fait quoi? S'il n'a pas le vécu derrière cette partition, s'il n'a pas eu l'expérience de traduire cette partition lui-même à partir de sa propre expérience pour faire sa propre analyse et pour donner le rendu à un public. Le public, c'est l'élève. Si on n'est pas capable de transmettre ça comme on peut transmettre à un public, à l'élève, ce qu'il a à faire, si on se cache derrière une partition, derrière une méthode, derrière un pseudo-savoir, on n'est pas professeur. Et la grande différence de certaines écoles, c'est qu'il y a des gens qui jouent. Or, qu'est-ce qu'on constate maintenant? Cumul des mandats. Vous n'avez pas le droit de faire partie d'un orchestre si vous êtes professeur. Vous n'avez pas le droit de faire des concerts, sauf si la mairie vous en donne l'autorisation. Mais on va où? Si je suis pas capable d'avoir l'autorisation de faire les concerts que j'ai envie, si je suis pas mon libre arbitre d'interpréter la musique que j'ai envie, qu'est-ce que je peux traduire? Je suis pas là pour faire de la gymnastique, encore que la gymnastique peut être très inventive. Là, ce n'est qu'un succès d'année, ce n'est qu'un approvisionnement du langage. Et à l'heure actuelle, on en est là en France. Pourquoi il y a plein de musiciens qui éclatent dans le monde? Pourquoi on trouve des Chinois qui ont une virtuosité, une musicalité à fleur de peau? Pourquoi on trouve ça dans le nord de l'Europe? On trouve ça dans le sud de partout? Et pourquoi en France, d'un seul coup, alors qu'on prétend avoir le meilleur solfège du monde, pourquoi on est si pauvre en musique maintenant? Parce qu'on n'est pas capable de traduire la musique. Et l'enseignement musical, pour moi, ça a été une richesse que aucune création que j'ai faite ne peut égaler.
Croisé, bien, croisé, à six boutons, et revers pointu, tout à fait, ça ne va pas. Tu vois, écoute, vraiment, bien bouton. Pourquoi? Rendez-vous. Bien, ce matin. Pourquoi? Le déjeuner, elle se tourne en plein. Quoi? Vous voulez... C'est dingue. Mais elle n'écoute pas. Je suis passée, incompréhensible. Elle rayonne. Et à quoi? Salut. Alors, pianote. Le bar. Tout à fait. C'est une véritable ruche ici. Oh. Porte un costume croisé, l'un et soi. Une chemise de coton. Une chemise de coton. Pas dans son assiette. La carte, il me donne. Il, eh bien. Et le gilet? Oublié. Avant chaque l'ouvre. Fois. Belle humeur. Mais, après une séance. Ce soir. Se met. Non. Baisse les yeux. Fois, à chaque voulez... fois. Ma colère. Bref, si je ne me trompe. De coton. Une chemise de coton. Avec. Il est debout. Vêtu. Visiblement. Se penchant. Me lance. Elle avait. Sans intérêt. Les forces. Ça paraît. Ou sirotant. Quand. Lui est dit. Trop. Certaines. Votre ami. Et le gilet. Oublié. Avant l'aube. Dû me quitter. En plein. Dans les heures. Simplement. Qui ne peut pas venir. Ne me dis
Je
pas.
Je veux dire.
Une seconde.
Deux.
Une minute.
Trop.
Un silence. Ça n'est pas. Oh, attends. On peut bien sortir.
Ça va chercher.
Vous savez,
tu sais,
vous voulez...
Mince.
Non. En faisant, c'est tout.
Je n'en sais rien.
Une minute. Ne me dis
Je
pas.
Je veux dire...
Chut.
Elle se tourne.
Même ça, ça m'aide déjà.
Quoi?
Plusieurs fois.
Non.
J'aime bien ton costume et il est très joli. Incompréhensible,
désolée,
efféminée,
pas de sale, non.
Elle rayonne.
Salut.
Sur la joue.
Pincement.
Je pensais bien.
J'ai. Arrête.
On a envie, comme tu disais, de transmettre, c'est-à-dire que un professeur, c'est un peu comme un moulin. Et tant que le moulin a de l'eau et qu'il s'enrichit au fur et à mesure de l'eau, etc., tout va bien. Si l'eau vient à manquer, le moulin ne tournera plus. Or, pour l'enseignant, c'est l'eau qui est importante pour nous, c'est la musique, c'est le faire, c'est-à-dire le concert, comme disait Gaston, c'est-à-dire c'est la rencontre avec d'autres. Et là, à ce moment-là, on peut transmettre.
Pour conclure cette série d'entretiens, je vous propose qu'on s'interroge un peu ensemble sur le futur de la musique. On a l'impression d'être en ce moment dans une période un peu charnière. On voit les choses bouger de manière considérable, notamment en matière de diffusion de la musique. Le disque, que l'on connaissait jusqu'à présent, est en train de disparaître. D'autres modes de diffusion sont en train d'apparaître, notamment via Internet, via le téléchargement, avec des problématiques en la matière, de droits, de liberté d'échange, etc. Comment est-ce que vous envisagez, vous, le futur de la consommation de musique, si tant soit qu'on puisse parler de consommation à propos de la musique ?
Déjà, pour mon point personnel, je dirais nos futurs. Nos futurs, parce que de toute façon, je ne peux pas savoir qu'est-ce que ce sera après. Donc pour moi, j'ai nos futurs. Je sais dans quelle direction je vais, et je vais aller jusqu'où là je peux aller. Qu'est-ce qui va se passer après ? Bon, il n'y a personne qui peut le dire. Sauf que les philosophes ont dit, sans musique, on meurt. Donc il y aura toujours de la musique. Il y aura toujours de l'expression musicale, il y aura toujours un devenir de la musique. Qu'est-ce qui sera ? Moi, je n'ai pas les clés de ça, et je pense que personne n'a les clés de ça. La création existera toujours, la musique sera toujours présente dans notre société, elle sera toujours aussi violente, et je pense que personne n'a les clés de savoir qu'est-ce que ce sera. Maintenant, si je fais un flashback un peu par rapport aux médias, parce que c'est des médias dont il s'agit, que ce soit Internet, que ce soit les disques, les CD, les DVD, etc., c'est des médias. C'est pas nouveau. Quand on a commencé dans ce métier et qu'on possédait certaines pièces, on allait voir les maisons de disques en disant, vous savez, on pourra enregistrer telle pièce parce que c'est correct et tout. Et ils nous disaient, non. Le 33 tours, vous savez, le 33 tours, c'est quand même réservé à la musique classique. Mais si vous voulez, vous pourrez enregistrer les 78 tours. Vous serez vraiment heureux. Ça, on peut faire ça sur 78 tours. Ah ben non, ça ne nous intéresse pas. Le 78 tours ne correspond pas à la durée des pièces qu'on pourrait enregistrer. Donc, on ne peut pas enregistrer ça. Bon. Quand le CD est sorti, ils nous ont dit, non, vous comprenez, ça intéresse la musique savante, classique, avec un marché et tout. Mais si vous voulez faire des 33 tours, on peut. Ben non, ça ne nous intéresse pas. Et puis, quand le DVD est sorti, on s'est dit, enfin, ça, c'est un média qui correspond à notre système. Nous sommes du théâtre musical. Ce qui a à voir est aussi important que ce qui a à entendre. Ça va intéresser. Et on nous a dit, ah ben non, ça, les DVD, c'est pour les grands récitals, les grands solistes. Mais si vous voulez, vous pouvez faire des CD. Ils ont toujours une rame de retard. Cette rame de retard ne se rattrapera jamais. Je pense que on fait partie des gens qui ont joué des musiques peut-être les plus importantes de ce XXe siècle. C'est pas pour nous jeter de la gloire, mais on était là au moment où on était là à Bastien, parce qu'on était à l'endroit précis où ça devait se passer. Si vous voulez connaître ma discographie, elle va peut-être se résumer à 3 ou 4. Si vous voulez parler de DVD, j'en ai aucun. Aucun. Et je peux avoir plein de DVD qui ont été piratés par des élèves qui m'ont filmé pendant que je jouais. Quand j'ai voulu faire un film qui a été tourné, comme je vous ai dit en aparté, on a tourné ce film, il y a tout, il n'y avait plus que la post-production à faire, la ministre de la Culture nous a répondu, ça ne nous regarde plus, il ne fallait rien tourner du tout, on aurait pu vous aider, mais puisqu'il n'y a plus que la post-production, on ne peut pas vous aider. Le film a été enterré dans les oubliettes. Donc, si je regarde ce background, les médias, c'est quoi? C'est, je veux me servir de quelque chose que je peux vendre, à part ça, je m'en fous. Je me fous de tout ce qui peut être culturel, je vends un objet. Si ça se passe sur Internet, à l'heure actuelle, on a un marché qui représente les maisons d'édition qui ne font plus leur travail, qui ne font plus de copies, qui ne font plus de diffusion, qui ne font plus rien du tout. Moi, je n'ai pas les clés et je dis que pour moi, il y a nos futurs. Pour moi, pour ma personnalité,
Brigitte,
nos futurs.
L'avenir musical, c'est nos futurs.
Moi, j'ai l'impression que l'avenir musical, il est dans la société de consommation et dans la facilité. C'est-à-dire que vous rentrez sur Internet, vous pouvez télécharger telle musique de film, tel concert, etc. Il me semble que les gens vont aller moins au concert. Donc, le travail, le métier d'instrumentiste, est-ce que ça vaudra la peine de continuer? Est-ce que les salles de concert vont être désertées? On a vu le problème avec les salles de cinéma où il y a eu quand même un problème de fréquentation. Bon, consommer certes, mais je dirais intelligemment. C'est-à-dire qu'on peut se servir de l'outil qui est certainement fantastique dans son absolu. Dans chaque compartiment de cet outil, est-ce que tout est valable? Je me pose la question. Pour moi, j'ai un point d'interrogation. Je ne suis pas aussi catégorique que Gaston, mais je me pose quand même des questions. Alors, pour des recherches sur tel compositeur, tel interprète, etc., c'est un énorme outil, c'est clair. C'est clair pour tous les jeunes qui sont en fac, qui peuvent faire des recherches, qu'elles soient scientifiques ou culturelles, peu importe, ils peuvent vraiment, c'est un outil de travail. Mais je pense que ça devrait rester quand même à l'outil de travail, à l'outil de culture, et non pas se substituer à la culture en elle-même. C'est-à-dire, ben voilà, je télécharge un truc, c'est plus ou moins gratuit, et puis ben, comme ça, ben voilà, j'ai la culture, mais on ne sait pas ce que c'est que... Ce que c'est que l'émotion d'une salle de concert, on ne sait pas ce que c'est que l'investissement de ceux qui sont là et du choc que peut recevoir un public, ça c'est gommé quand même.
Moi quand je disais nos futurs, je ne suis pas pessimiste. Hein. Ça peut paraître pessimiste, mais je ne suis pas du tout pessimiste. Je dis pour mon cas personnel, nos futurs. Ça veut dire que pour mon cas personnel, je suis dans une tranche d'abord d'âge, de réflexion, de culture, et je sais où je vais, et je suis parfaitement conscient que là où je vais, ça me satisfait pleinement, et j'ai les moyens d'y aller. Donc pour moi, je dis nos futurs, je sais que ça va exploser, que la musique va être encore peut-être plus présente qu'avant, je n'ai pas les clés de ça, c'est pour ça que moi je dis nos futurs par rapport à la direction, donc pas par rapport à la direction que j'ai, mais par rapport à la connaissance que moi j'en ai maintenant. Mais demain, il y aura une explosion de musique, demain il y aura une explosion de création, l'homme ne peut pas vivre sans musique.
Mais c'est pas la machine qui la fera,
peut-être que ce sera la machine, peut-être que ce sera l'homme, peut-être que l'homme arrivera à dominer la machine, peut-être que la machine dominera l'homme.
Oui.
J'ai pas les clés de ça, et ça.
Non, moi non plus.
Et je dirais que peu importe, il y aura plein d'énergie, plein de synergies qui vont commencer à fonctionner, et un jour, ça va exploser. Pour le moment, je pense qu'on est dans un creux de vague, et l'intérêt d'être dans le creux de vague, c'est qu'on ne peut que remonter.
Qui vivra, verra, et qui verra, écoutera, certainement. En tout cas, merci à vous, Brigitte et Gaston Sylvestre, de nous avoir reçus dans votre salon pour cette série d'entretiens. Merci à Étienne Noiseau qui en a assuré l'enregistrement.
Merci à vous.
merci à vous, parce que ça permet, dans un parcours comme le nôtre, de faire le point, et on a rarement l'occasion de le faire, et à ce propos, je vous remercie beaucoup de nous avoir donné cette opportunité.
Au cours de cette émission, vous avez pu écouter quelques extraits musicaux, un conte à musique numéro 10, composé par Marie-Hélène Fournier et tiré de son album solo, auquel participaient Gaston Sylvestre et Brigitte Sylvestre. Vous avez pu écouter ensuite Golden Boy, une création sonore de Marine Quignou. Et on se quitte avec Georges Apergis, un extrait du Requiem furtif, interprété par l'ensemble SIC sous la direction de Françoise Rivalan. Françoise Rivalan qui a été, je crois, autrefois une élève de Gaston Sylvestre. Ces 5 émissions en compagnie de Brigitte et Gaston Sylvestre s'inscrivaient dans l'accompagnement par grenouille du festival Son de Plateau proposé par le Grimm. Nous continuerons cet accompagnement avec une présence en direct le 2 juin de 18h à 21h autour de la programmation de ce festival et avec de très nombreux invités et retransmissions de concerts. Restez à l'écoute sur la grenouille.